RFI.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la dernière édition de l'État du Monde qui a retenu comme tendance majeure de l'évolution politique internationale le retour des populismes. Il est vrai que les exemples ne manquent pas, de l'Amérique de Trump à la Russie de Poutine en passant par le Brexit britannique, la Turquie d'Erdogan et les extrêmes droites européennes, sans oublier l'Inde de Modi et les Philippines de Duterte. Peut-on parler d'un moment populiste de notre espace mondial? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages et co-directeur de l'État du Monde qui paraîtra le 6 septembre prochain. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, co-directeur de l'État du Monde, auteur de nombreux ouvrages également, dont le dernier, Antisionisme est-il égal à antisémitisme, réponse Emmanuel Macron, aux éditions Libertalia. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Badie, l'américain Francis Fukuyama, dans son essai de 1992 intitulé « La fin de l'histoire », prophétisait l'extension de la démocratie libérale. Alors 1992, c'est bien sûr loin. Il s'est donc trompé à la lecture du monde d'aujourd'hui, marqué par un net recul des démocraties libérales. Avant d'évoquer ce retour des populismes, une définition peut-être s'impose. Qu'est-ce que le populisme et de quoi est-il le symptôme, Bertrand Badie?
Alors c'est la question la plus difficile. Et c'est justement pour cela qu'il y a un certain malaise dans l'utilisation même du mot. Il faut se garder de se précipiter sur une définition qui figerait le terme. La preuve, c'est que les vagues populistes viennent et reviennent, s'étalant maintenant sur un siècle et demi d'histoire. Or, les contextes ont changé, donc le populisme ne peut pas être la même chose. Le populisme d'aujourd'hui ne peut pas ressembler à celui de la Russie à la fin du 19e siècle. Mais ne nous dérobons pas, bien entendu. Je dirais que le populisme, c'est une situation et une façon de gérer, de répondre à cette situation. La situation, c'est quoi? C'est une situation de décrochage, c'est-à-dire lorsque les peuples n'ont plus confiance dans leurs institutions, ne leur croient pas capables de surmonter les difficultés économiques, politiques, internationales auxquelles elles ont à faire face. Bref, c'est une pathologie. Il ne faut pas avoir peur d'employer le terme, une pathologie qui frappe les sociétés où le politique, dans sa version institutionnelle et officielle, se trouve discrédité. Et à partir de là, on retrouve ce qui fait l'unité des différentes situations populistes, c'est-à-dire la manière dont on réagit à cette crise de confiance, cette crise de légitimité. On réagit en essayant de surmonter, dépasser, ignorer les institutions, les corps intermédiaires, les élites, les gouvernants, et en mettant sur ceux-ci et celles-ci l'essentiel de la responsabilité du drame vécu, en ignorant systématiquement les causes profondes, réelles, de ce malaise économique ou de ce malaise international dans lequel on baigne. Donc il y a quelque chose qui ressemble à une simplification à l'extrême, et il ne faut pas oublier enfin que dans ce mouvement de rejet de tout ce qui est intermédiaire, les idéologies en prennent également pour leur grade, et c'est la raison pour laquelle le populisme ne se marie à aucune idéologie, au contraire, les dénonce. On va dénoncer le libéralisme, le socialisme et toutes les variantes d'organisation politique de la modernité, et du coup, ce procès fait en même temps aux intermédiaires et aux idéologies conduit à une absence programmatique cohérente, c'est-à-dire que il n'y a plus de parti, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de modèle qui vienne en quelque sorte régir les choix politiques. Du coup, ceux-ci se font à l'instinct, peut-être au marketing ou en tous les cas, et c'est un élément très important, à ce grand substitut à tout ce que l'on a effacé qui est le chef, c'est-à-dire l'aura du chef qui vient en quelque sorte dire le vrai. Dire le vrai, c'est le fin mot de l'histoire populiste, comme si effectivement le leader charismatique était en mesure de dire le vrai et d'effacer toutes les erreurs qui ont conduit à cette situation.
Alors, Dominique Vidal, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir à ce degré de l'émission, peut-être une réaction à ce que vient de dire Bertrand Badie.
Oui, volontiers, parce que ce débat un peu théorique et politique que Bertrand ouvre et que notre État du Monde développe, c'est un débat urgent. Parce que nous sommes confrontés à un phénomène majeur. on réfléchit en quelques années, le Brexit, l'élection de Donald Trump, le tremblement de terre italien, on peut vraiment parler d'un tremblement de terre, la Hongrie, les deux partis populistes font 68% des voix dans un contexte d'atteinte aux libertés, on en reparlera peut-être. Ce qui fait d'ailleurs que tout l'axe de Visegrad, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, si on ajoute Autriche, est désormais un axe entièrement dominé par des populistes d'ailleurs de gauche ou de droite. Bref, on a un phénomène global, et vous l'avez dit dans votre introduction, qui n'est pas qu'européen. On a Poutine, on a Erdogan, on a
Duterte,
on a Modi, on a Sisi, on a Kagame, etc., etc. Alors, le problème, c'est que la terminaison de mot « isme », c'est très trompeur. Parce que le populisme n'est pas comparable ni au socialisme, ni au communisme, ni au fascisme, ni au nazisme. Il est, au fond, moins une doctrine qu'un ensemble de discours et de pratiques politiques. Alors, il y a des points communs qu'on va certainement développer. De toute évidence, le nationalisme, sans doute un élément central. De toute évidence, le culte du chef. De toute évidence, l'atteinte aux libertés traditionnelles, la haine de la démocratie, notamment pour les populistes de droite. Mais quand on dit tout ça, il n'empêche que Trump n'est pas Poutine, ni Erdogan, pas plus que Mélenchon n'est Marine Le Pen. Donc on a en fait, et je crois que c'est une des idées fortes de l'introduction de Bertrand dans le livre, et qui est développée par plusieurs auteurs, on a au fond une situation de contexte dans lequel le populisme se développe, qui est, je résumerai, le contexte d'une quadruple crise. D'abord une crise économique et sociale, qui bouleverse les populations. On est dans une explosion des inégalités à l'échelle mondiale et dans beaucoup de pays. Deuxièmement, une crise des identités, très liée d'ailleurs à cette crise économique et sociale. Troisièmement, une crise des souverainetés. Les États perdent face aux systèmes multinationaux dans la mondialisation. Et une crise de la démocratie. C'est cet ensemble de crises conjuguées avec sans doute l'élément décisif, la crise des alternatives. Il n'y a pas d'alternative, ni de gauche, ni de droite aujourd'hui. Comme Bertrand l'a dit, les idéologies sont en crise elles-mêmes. C'est tout cela qui fait un terreau qui est terriblement productif. Alors rien ne dit que les choses seront de manière mécanique, en plein développement. On peut avoir un recul des populistes. On voit bien, par exemple, qu'en Espagne ou au Portugal, pour prendre ces deux exemples, on a plutôt un phénomène de reprise des gauches traditionnelles. Mais il y a vraiment une inquiétude. Et c'est une inquiétude qu'on ne peut pas contourner simplement en disant « attention, piège, d'un côté les populistes, de l'autre côté les libéraux, vous devez choisir entre les uns et les autres ». Certes, il y a un piège, mais le piège, il naît de la réalité même de la menace populiste.
Bertrand Badie, vous évoquiez donc cette émergence du populisme. Est-ce que cette émergence du populisme, finalement, est une situation par défaut? Et je voudrais revenir également sur les différentes vagues populistes qu'il y a eu dans l'histoire, sans les détailler. Mais enfin, tout ça a commencé dans l'histoire à peu près récente, fin du 19e siècle, en Russie, aux États-Unis, le boulangisme en France, deuxième vague populiste pendant l'entre-deux-guerres, en Allemagne, en Italie, puis en Amérique latine. Également, troisième vague, pour faire simple et rapide, c'est le temps de la décolonisation. Et puis, quatrième vague, la fin des 30 Glorieuses. Et fin de la guerre froide aussi. Est-ce que la vague actuelle de populisme, qu'on a rapidement détaillée, est atypique ou se différencie des précédentes, Bertrand Badie?
Alors, oui et non. Oui et non. Les quatre vagues que vous avez rappelées correspondent à quatre situations, et ces quatre situations ont un dénominateur commun, qui est une sorte d'inadaptation ou d'incapacité de s'adapter au changement. Ce sont à chaque fois des moments de changement forts. La première vague populisme à la fin du 19e siècle, c'est l'industrialisation qui vient bousculer les économies et les sociétés traditionnelles. L'entre-deux-guerres, c'est les effets tectoniques de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement subséquent des empires. La troisième vague, qui a surtout atteint et essentiellement atteint le tiers-monde, c'est l'effet décolonisation. Et la quatrième vague, ce qui me permet cette fois-ci de montrer les différences, c'est aussi une autre rupture, mais d'une toute autre nature, qui est l'entrée dans la mondialisation. Il y a un facteur commun à tous ces populismes qui affectent le monde aujourd'hui, c'est une incompréhension et même une peur de la mondialisation. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette incompréhension et cette peur atteint aujourd'hui la superpuissance, ou ce qu'un ancien ministre des Affaires étrangères français appelait l'hyperpuissance, qui a été en quelque sorte la mère de la mondialisation, l'inventeur de la mondialisation, et qui soudain en a peur. C'est ça, Trump. C'est cette espèce de retour du leader et de l'hégémone d'une position donc de domination à une position de contestation d'une mondialisation qui échappe, j'allais dire, aux mains de l'oncle Sam, qui échappe au contrôle des États-Unis. La grande idée, c'est de dire, mais cette mondialisation que nous avons contribué à créer, et Dieu sait si dans l'imaginaire américain, la mondialisation était valorisée, fait peur aujourd'hui parce qu'elle profite à la Chine, parce qu'elle profite aux émergents, parce qu'elle profite à un certain nombre d'économies, et d'un certain point de vue aussi à l'économie européenne. Faut quand même pas l'oublier que l'Europe a dépassé les États-Unis comme puissance commerciale. Et donc, on voit les États-Unis eux-mêmes se transformaient en contestataires de la mondialisation, ce qui est la base même du trumpisme. Après les deux postures qui étaient la posture néoconservatrice de George W. Bush, qui est « mais la mondialisation va nous aider à universaliser notre modèle », c'est le fameux regime change dont on a vu à quelle catastrophe évidemment il conduisait, ou l'autre modèle, le modèle obamien, qui consiste à dire « mais justement, cette mondialisation n'est plus favorable à notre puissance militaire, à notre domination militaire, donc jouons la carte du libre-échangisme, de l'économie mondiale, essayons de contrôler cette mondialisation de l'économie. » Le procès qui est fait par Trump à son prédécesseur, c'est que non seulement il n'y est pas parvenu, mais il a agi ainsi contre les intérêts de l'économie américaine, d'où ce retour au protectionnisme.
Dominique Vidal.
Oui, ce que je voulais dire, quand on présente l'évolution du populisme dans la période récente, on a un peu l'impression d'un inventaire à la Prévert, avec de briques et de brocs, toute une série d'éléments. C'est pas comme ça non plus. C'est-à-dire, il faut toujours se souvenir, j'adore cette phrase de Bertolt Brecht qui disait « d'abord le pain et ensuite la morale ». Le cœur de la question, c'est d'abord la crise économique et sociale, telle qu'elle est vécue à l'échelle mondiale et dans chaque pays. J'ai mis la main, en préparant votre émission, sur un rapport d'Oxfam qui porte sur l'année 2017. 82% des richesses produites ont profité aux 1% les plus riches de la population mondiale. Quand on a cette situation-là, on ne peut pas s'étonner que des millions et des centaines de millions de gens soient touchés, pas seulement dans leurs conditions de vie, mais dans leur identité. Le fait d'être mis au chômage, le fait d'être rejeté de la société, ça produit des douleurs intimes. Et ces douleurs intimes, avec les crises d'identité qu'elles génèrent, elles expliquent aussi que certains cherchent à pointer le doigt accusateur vers la mondialisation, vers la perte de souveraineté, vers Bruxelles. Tout est de la faute de Bruxelles, tout est de la faute de la mondialisation. On oublie le système qui, à Bruxelles, comme dans chaque pays, produit ce malheur en masse. Et de la même manière, ça conduit à une remise en cause de la démocratie, puisque la démocratie n'est pas capable d'assurer la satisfaction des besoins des uns et des autres. Donc la démocratie est en cause. Il faut bien mesurer la violence de ce refus de la démocratie. On a dans le livre un texte très beau d'ailleurs de Zev Sternel qui rappelle ce que Benedetto Croce, penseur du fascisme italien, disait de la démocratie. Je le cite parce que c'est un peu indicatif de ce que pensent tous ces populistes de droite. « La démocratie, c'est le néant. C'est le troupeau conduisant le berger. C'est le monde renversé. C'est le désordre, l'inanité et l'imbécilité organisée. » Croce était très dur, mais tous ces gens dont nous parlons, à droite des mouvements populistes, pensent cela. Et c'est ça, sans doute, qui est le plus inquiétant et qui se met à l'œuvre, on en parlera peut-être tout à l'heure, par exemple, à l'est de l'Europe, où on a maintenant un axe de gens qui sont en train de détruire, boulon après boulon, la démocratie pour ce qu'il en existait déjà difficilement.
Alors pour définir peut-être les choses de façon un peu cadrée, Bertrand Badi, remise en cause de la démocratie, Dominique Vidal l'a dit, mais finalement la responsabilité, les responsabilités se trouvent à certains niveaux de nos sociétés. Alors on stigmatise beaucoup les élites, elles ont tout de même une certaine part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, je voudrais juste revenir, ça m'aidera à répondre à votre question, à ce que disait Dominique. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur effectivement la science socio-économique qu'il y a dans la mondialisation, mais je dirais que d'un certain point de vue, ça va au-delà encore. C'est-à-dire que la mondialisation brutalise pas les comportements sociaux et politiques uniquement parce qu'elle est porteuse de nouvelles inégalités économiques. C'est aussi parce qu'elle casse les repères. C'est-à-dire que dans la mondialisation, le cadre de référence change. C'est une énorme césure. Écoutez, dans l'histoire de l'humanité, peut-être que depuis Adam et Ève, il n'y a pas eu de césure aussi forte que celle de devoir, soudain, parce que ça s'est passé en très peu de temps, se penser à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement parisien ou français ou européen, je suis dans le monde. Et le problème, c'est que les idéologies politiques, le vocabulaire politique, les institutions politiques ne nous donnent aucun moyen de nous penser dans le monde. D'où effectivement, ce réflexe instinctif qui est un réflexe identitaire. Et c'est la raison pour laquelle cette quatrième vague populiste est si identitariste. Je me sens spolié par cette mondialisation qui me place dans un univers auquel je m'identifie très très peu, et donc effectivement je vais me retourner d'autant plus fortement et d'autant plus volontiers vers les référents identitaires traditionnels, qu'ils soient nationaux et nationalistes, mais qu'ils soient aussi religieux et tout ce qui s'ensuit. Alors là nous tenons un élément très fort, c'est-à-dire le populisme croît, avec un accent circonflexe, lorsque le vocabulaire politique, notre éducation politique, ne nous donne pas les repères, les éléments de compréhension de la situation nouvelle dans laquelle nous nous trouvons. Alors ça me permet de vous donner raison, une grande responsabilité des élites politiques qui n'ont pas su prendre ce tournant. Parce que ce qui est incroyable et terriblement annonciateur des pathologies que nous vivons actuellement, c'est que nos dirigeants, et surtout les dirigeants des vieilles puissances, ont fait comme si rien n'avait changé dans notre monde, comme si nous étions encore au 19e siècle, comme si les catégories d'analyse classiques étaient encore totalement opérantes et n'ont pas su négocier à temps ce tournant de la mondialisation. Pour souvent d'ailleurs des raisons électoralistes, c'est-à-dire il est bien plus fructueux sur le plan électoral, du marché électoral, de parler à des électeurs nationaux que de parler à des citoyens du monde, hein, c'est absolument évident. Aussi cette manière incroyable dont nos dirigeants, totalement aveugles sur la question nouvelle des migrations, ont fait de la lutte contre la migration une véritable marchandise électorale, en refusant délibérément d'entrer dans ce nouveau monde dans lequel la migration va se banaliser et va devenir, ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire un élément de cette échelle mondiale que nous refusons de voir. Donc la responsabilité des élites, elle n'est pas contestable, mais le paradoxe, c'est que ce que l'on peut reprocher aux élites, c'est exactement le contraire de ce que les populistes leur reprochent, c'est-à-dire de ne pas avoir su anticiper sur un temps que eux, les populistes, ne veulent absolument pas voir. Et la posture sur la migration est tout à fait extraordinaire. Si nous vivons une crise aussi aiguë de la migration aujourd'hui, c'est parce que les dirigeants d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas voulu voir que la migration devenait un paramètre normal de notre espace mondial. Résultat, ils ont fait eux-mêmes et avant les populistes, de la question de la chasse aux migrants, un élément de leur marché électoral, c'est-à-dire de leur offre électorale, ce qui est hautement paradoxal.
Alors Dominique Vidal, je sais que vous vouliez répondre à Bertrand Badi, je vous propose d'attendre la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve dans quelques instants, avec Dominique plaisir. Vidal et Bertrand Badi. Après.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique consacrée à la dernière édition de l'État du Monde qui a retenu comme tendance majeure de l'évolution politique internationale le retour des populismes. Peut-on parler d'un moment populiste de notre espace mondial ? C'est ce que nous voyons avec nos invités. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages et co-directeur de l'État du Monde qui paraîtra le 6 septembre prochain. Et Dominique Vidal, journaliste et historien, co-directeur de l'État du Monde et auteur aussi de nombreux ouvrages dont le dernier, Antisionisme est illégal à antisémitisme, réponse à Emmanuel Macron, paru aux éditions Libertalia. On a évoqué dans la première partie de l'émission, Dominique Vidal, les questions bien sûr liées à l'émergence du populisme et l'importance peut-être aussi de la question migratoire dans ce qui est à vivre aujourd'hui dans cette situation.
L'extraordinaire poussée populiste que connaît l'Italie, elle n'est pas tombée du ciel. Et Raffaele Laudani, dans son chapitre de l'État du Monde, le montre très bien. C'est l'épuisement de la fausse alternance entre d'un côté Berlusconi et de l'autre Renzi qui a épuisé le champ politique au point que le populisme a pu y faire son nid et grandir. Je crois que c'est très important de noter cette histoire-là, en l'occurrence en Italie, mais on pourrait parler d'autres pays, du populisme né de l'absence d'alternative. Ce qui est intéressant en plus dans le cas italien et que peu de nos confrères ont relevé, c'est que la Ligue, qui est arrivée à 17% environ le 4 mars dernier lors de la victoire des partis populistes, aujourd'hui elle est à 30% dans les sondages. C'est-à-dire que les populistes arrivent, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, sans doute que l'épreuve du pouvoir les attend, mais pour l'instant, dans le cas de la Ligue, l'épreuve du pouvoir, c'est qu'elle a quasiment doublé ses voix en asséchant l'électorat de Berlusconi et en réduisant singulièrement celui du mouvement des 5 étoiles. Ce qui m'amène à une deuxième remarque. Je crois qu'on a raison de parler de populisme de gauche et de droite. Mmh. Il y a des populismes de gauche, on ne va pas le nier, encore qu'ils aient des caractéristiques bien particulières. Mais la dominante, et de loin, et de très loin, c'est le populisme de droite. Aujourd'hui, dans notre Europe, dans l'Union européenne, toutes ces forces populistes et d'extrême droite représentent 10% des voix dans 15 pays et 20% dans 8 pays. Avec des records en Suisse, c'est pas l'Union européenne, mais c'est intéressant de le noter, 29%, en Tchéquie, 40%, et en Hongrie, 68%. Donc il y a vraiment une dominante populiste de droite avec tout ce que ça veut dire. La xénophobie face aux migrants, mais aussi le nationalisme le plus échevelé, le culte du chef. Dernier point, et je voudrais y insister parce que pour moi c'est tout à fait capital, cette question du discrédit de la démocratie qui dépasse largement la propagande de ces partis. Je veux vous citer un sondage récent, une enquête, c'est pas un sondage d'ailleurs, sur en qui les Français ont confiance, chez nous, en France. Alors, les petites et moyennes entreprises, 80%. Les maires, 68%. Les grandes entreprises, 40%. L'Union européenne, 36%. Les syndicats, 34%. La présidence de la République, 34%. Les médias, 30%. Et les députés, 26%. Quant aux partis politiques, ils sont à 10%. C'est clair que ce désamour-là, visiblement partagé par un très grand nombre de nos compatriotes, il peut mener à des systèmes qui ne sont plus des systèmes démocratiques.
Bertrand Badie, Dominique Vidal évoquait les populismes de gauche, les populismes de droite. Est-ce qu'on peut parler aussi de populisme du Nord et populisme du Sud ?
Dans la mesure où, comme on l'établissait tout à l'heure, le populisme est une réponse à des situations. Il y a des situations populistes au Sud lié notamment à la faillite presque immédiate des institutions politiques qui se sont construites au lendemain de la décolonisation. Évidemment, il s'est créé un mouvement populiste, mais qui faisait écho à cela. C'est-à-dire que ce populisme que l'on a vu se cristalliser autour de la figure de grands noms, de grands leaders de l'indépendance, que ce soit Nkrumah, Sékou Touré, ou dans une autre région, Gamal Abdel Nasser, etc., avaient toujours ceci de commun, c'est-à-dire les institutions mises en place avec la décolonisation ne fonctionnent pas, et il faut donc s'en remettre au chef. Mais bien sûr
que cette démarche ne sera pas des calques de ce qui s'est passé au Nord. Il y aura dans le populisme du Sud un relent d'anti-impérialisme, un relent, je dirais, d'identitarisme protestataire, c'est-à-dire d'un identitarisme non pas destiné à exclure l'autre, mais destiné à exprimer une volonté d'exister indépendamment des puissances dominantes. Il y a une revendication à la vie, c'est-à-dire à la survie, dans un contexte de sous-développement souvent extrêmement préoccupant. Bref, le profil est très différent. Personne ne peut comparer un Nasser ou un Sékou Touré à un Trump ou un Poutine.
Je rebondis. On reste dans le Sud, Bertrand Badi, pour évoquer la question de l'islam. Il y a un article de François Burga dans l'État du Monde. L'islam, depuis la révolution iranienne de 79, sert parfois de refuge identitaire à des populations rétives à l'occidentalisation du monde. Est-ce que l'islamisme n'est qu'un populisme ?
L'islam, avant de parler d'islamisme, l'islam, comme vous le dites, est devenu un refuge de quoi ? De contre-socialisation, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui ne se retrouvent pas dans ce modèle dominant, qui est un modèle occidental, qui était celui du colonisateur d'hier, de l'ennemi d'un certain point de vue d'hier, de l'ennemi des guerres d'indépendance, ce modèle dominant, donc à tonalité occidentale, chrétienne, est un modèle contre lequel non seulement on va se mobiliser, continuer à se mobiliser, mais que l'on tiendra pour responsable de tous les maux dont on souffre présentement. Et donc, peu à peu, l'islam va devenir une instance de contre-socialisation, parce que des grandes religions universelles, c'est probablement celle dont la géographie correspond le mieux à cette région du monde, et dont les ressources, je dirais, en termes de valeurs et même de rhétorique, de lexique politique, porte d'autant plus facilement les slogans de contestation, de dénonciation, de remise en cause, et du coup va se forger dans cette culture de l'islam un courant politique qui est l'islamisme, c'est-à-dire puisque tout dérive d'un modèle qui nous est imposé, créons à partir de l'islam notre contre-modèle qui nous servira de base à la cité. Donc effectivement, ces mobilisations politiques vont avoir une tonalité religieuse, le religieux et le politique vont naturellement entrer en fusion, et de l'islamisme, on pourra grimper tous les échelons que nos sociétés ont tendance d'ailleurs à confondre. De l'islamisme, on passera à un islamisme politique, un islamisme radical, et peut-être dans certaines formes d'islamisme djihadiste. C'est-à-dire, on est effectivement dans une parfaite logique de contre-socialisation et de contestation.
Dominique Vidal.
Je ne sais pas dans quelle mesure on peut considérer même l'islamisme comme un populisme comme les autres. Il me semble qu'il y a beaucoup de spécificités. Mais ce qui est vrai, c'est que le mécanisme est le même dans la naissance, dans la gestation et dans le développement de l'islam politique. Au fond, quand on regarde bien à quel moment cette vague de l'islam politique apparaît au Proche et au Moyen-Orient, évidemment en Afrique du Nord, c'est au moment où le modèle socialiste arabe échoue, avec toute une série d'acquis. Il y a eu des choses formidables qui ont été faites en Irak, en Égypte, en Syrie, pour dans les domaines de l'éducation, de la santé, etc. Mais globalement, le modèle a échoué, et d'ailleurs il n'était plus rien, on l'a vu avec Bachar al-Assad ou avec Saddam Hussein, d'un modèle socialiste. Mais l'autre modèle aussi a échoué. Le modèle arabe libéral, ce qu'on appelait l'infitar du temps de Sadat, l'ouverture économique, a aussi échoué, a résulté, enfin, on connaît tous ces rapports sur le sous-développement du monde arabe. C'était la région du monde où les choses avançaient le moins à l'échelle mondiale. Donc c'est dans ce cadre-là que la vague de l'islam politique s'est développée, et on l'a très bien vu au moment des révolutions arabes, où ce sont les frères musulmans, seules forces politiques constituées dans la plupart des pays, qui ont ramassé la mise, en tout cas, jusqu'à ce que la réaction arabe, qu'elle soit saoudienne ou syrienne, écrase ces révolutions. D'ailleurs, à mon avis, de manière extrêmement temporaire. On n'a pas fini avec les révolutions arabes. Donc je dirais, c'est le même phénomène, mais sans doute il est très spécifique parce que cette dimension religieuse est une dimension particulière. Tout à fait autre chose est le fait, et ça, Burga le montre très bien, que l'islam soit devenu la pointe avancée de la xénophobie, de la haine de l'étranger aujourd'hui. Moi, quand j'étais adolescent, on ne parlait jamais des musulmans. L'extrême droite minute ce genre de cercle d'extrême droite, parlait des Arabes, des Maghrébins, on s'en prenait pas à l'islam. C'est vraiment un phénomène nouveau qui est lié évidemment à ce qu'a été la poussée de l'islam politique à partir de la révolution iranienne en 1979. C'est à ce moment-là que l'islamophobie apparaît comme un élément important dans la vie politique de nos pays.
Alors, pour poursuivre, on a parlé des États-Unis avec vous, Bertrand Badi. Il y a deux centres sur lesquels j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps. C'est d'une part l'arc populiste en Europe centrale et puis l'Asie avec la Chine, que l'on voit finalement devenir de plus en plus un modèle pour un certain nombre de pays de la région. Bertrand Badi et alors Dominique Vidal, je sais que vous vouliez intervenir peut-être sur l'Europe centrale avec quelques éléments qui est comment expliquer cette opposition de certains pays à l'Union européenne, à l'ONU, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'OTAN.
Dominique Vidal. D'abord, pour dire que c'est une question très sous-estimée. L'Union européenne aujourd'hui a à l'Est un ensemble aujourd'hui de pays qui sont plus ou moins sur la même ligne populiste, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Autriche, ça fait quand même du monde, avec beaucoup de caractéristiques communes, pas toutes, mais beaucoup. Deuxièmement, là aussi, le phénomène de gestation de ces pouvoirs populistes, il est très clair. C'est l'échec du communisme réel, comme on disait, du socialisme réel, et tout de suite après, l'échec de la transition néolibérale, qui a ruiné toute une partie, notamment des catégories populaires de ces pays. Donc, ce double échec-là a fait le lit des populistes. Ce qui est caractéristique en commun de ces différents pouvoirs, c'est la dénonciation de l'Europe, mais pas de l'OTAN. On est très atlantiste, là. Main basse sur les médias, d'une manière extrêmement brutale, réduction de l'indépendance de la justice, politique économique et sociale néolibérale avec des bémols. Le pouvoir du PiS en Pologne a su augmenter les allocations familiales, développer telle ou telle aide qui a permis d'avoir une base de masse électorale plus large. Et puis, c'est très frappant quand même, xénophobie, et c'est particulier par rapport à d'autres populismes, antisémitisme et négationnisme. Lorsque Orban, le premier ministre hongrois, reçoit Benjamin Netanyahou il y a un an et quelques, quelques jours avant, il fait un discours d'apologie du régent Horthy, le Pétain hongrois, un Pétain qui quand même, à la fin de son mandat, a laissé déporter 430 000 juifs hongrois qui ont tous été, presque tous, gazés à Auschwitz. Donc faire aujourd'hui l'apologie de cet homme, juste avant de recevoir le premier ministre israélien, ça en dit long quand même, sur les rapports assez complexes, non pas entre antisionisme et antisémitisme, mais entre sionisme et antisémitisme. Deuxième exemple, et je m'arrête là, c'est celui de Kaczynski en Pologne, qui fait voter une loi, non pas pour dire que les camps de concentration n'étaient pas polonais, c'est d'ailleurs parfaitement exact, ils n'étaient pas polonais, ils étaient nazis, mais pour interdire le rappel de ce qu'a été la collaboration avec le nazisme en Pologne. Beaucoup d'historiens polonais considèrent que 2 à 300 000 juifs polonais ont été exterminés, non pas par les nazis, mais par des collabos polonais. On a quand même, dans l'Europe, quelque chose de très particulier sur lequel il conviendrait de réfléchir.
On passe à l'Asie, Bertrand Badi. Est-ce qu'on peut parler de populisme dès lors qu'on évoque la Chine et ce modèle que semble prendre un certain nombre de pays de la région collés sur le modèle de Pékin ?
La Chine qui s'effondre au tout début du XXe siècle est celle d'un empire traditionnel qui s'essouffle et qui n'a pas sa place dans une modernité que la Chine n'a pas du tout
contribué à construire et à inventer. Et on voit à ce moment-là un choc de modèles venant de l'étranger. Le modèle libéral national porté par le Kuomintang et Chiang Kai-shek et l'importation du marxisme porté par le Parti communiste chinois dont les sources plongent profondément dans les sociétés occidentales depuis Chen Duzhu et toute cette révolution occidentaliste opérée en Chine. La synthèse maoïste est très intéressante parce que Mao se fait effectivement porteur de ce message marxiste, mais Mao est un homme très peu mondialisé, qui n'est pas sorti de son pays et qui va marier ce marxisme importé avec un populisme paysan extrêmement fort. Et ça, c'est la première, je dirais, inspiration populiste du maoïsme. Et le parti communiste chinois qui va arriver au pouvoir le 1er octobre 1949 va construire ce modèle hybride, fait en même temps de populisme et de rigueur idéologique. C'est presque inédit, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui ressemblent à cela. Et la dynamique maoïste, et Dominique Barry le montre bien dans son article, est une dynamique qui va en quelque sorte chercher à réinventer le modèle chinois à partir d'une mobilisation populaire contre le parti, ses élites, sa nomenclatura, son idéologie officielle. Et le paroxysme de cela, ça va être bien entendu la révolution culturelle, qui est ce souffle populiste anti-élite, anti-modèle constitué, crise de confiance dans les institutions et les personnes, et les personnes vont être particulièrement chahutées, comme vous le savez, à la faveur de la révolution culturelle. Et contrairement au modèle soviétique et à l'effritement, à l'effondrement du Parti communiste de l'Union soviétique, on va en même temps garder cette référence populiste, mais ne rien céder sur la pertinence et la légitimité du Parti communiste chinois, de ses appareils et de ses dirigeants. Si bien que le paradoxe de la Chine, c'est avoir su utiliser un moteur populiste comme pour revigorer des institutions qui, bien entendu, sont critiquées, contestées, délégitimées, comme partout dans le monde, mais qui, en tous les cas, demeurent dans cette synthèse assez étonnante entre un référent populiste et un référent néo-institutionnel, et qui se traduit dans l'économie, par exemple, dans le fait que cette économie reste une économie dirigée, une économie d'État. Et après tout, si vous comparez aujourd'hui la Chine de Xi Jinping et l'Inde de Monsieur Modi, sur le plan de la performance économique et peut-être de la performance tout court, ce modèle hybride a beaucoup mieux marché que le modèle indien qui, lui, à l'inverse, se caractérise par une dialectique entre la tentative de construire la démocratie indienne, qui a été d'ailleurs un succès, et ces différentes vagues populistes, la première incarnée par Nehru, puis sa fille Indira Gandhi, et puis la deuxième par le fondamentalisme hindouiste qui a été porté par Monsieur Modi actuel et qui se traduit notamment par une réaction identitariste et populiste extraordinairement forte.
Alors Dominique Vidal, en une seconde pour conclure cette
émission. Une phrase simplement pour dire que les mouvements populistes sont nés de l'absence d'alternatives et que donc la seule réponse réelle aux mouvements populistes, c'est la reconstruction d'alternatives. Tant qu'il n'y aura pas d'autres alternatives, on peut s'agiter beaucoup, mais les conditions même qui ont permis cette poussée populiste demeurent. Donc c'est une vraie question qui est posée à l'ensemble des forces politiques, et en particulier pour ce qui les concerne, aux forces politiques de gauche.
Alors bien sûr, pour aller plus loin sur ces questions, je vous renvoie bien sûr à la dernière édition de l'État du Monde, État du Monde 2019, qui a pour titre Le retour des populismes, qui paraîtra le 6 septembre prochain aux éditions La Découverte. Merci Bertrand Badi. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier à paraître le 4 octobre, Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse. Ce sera aux éditions, là aussi, de La Découverte. Dominique Vidal, journaliste et historien, co-directeur de l'État du Monde. Votre dernier ouvrage, Antisionisme est-il égal à antisémitisme? Réponse Emmanuel Macron aux éditions Libertalia. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Sophie Jeannin. À la semaine prochaine.